Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Comment se définir en tant qu'Arménien lorsqu'on vit en France? Que veut dire français d'origine arménienne? Peut-on parler d'Arménien de France? Derrière ces questions se profile, vous l'aurez compris, la notion d'identité qui va faire l'objet de notre discussion ce matin dans Carte sur table en compagnie de nos trois invités. Hérold Alexanian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste. Mmh. Zovinal Kevonian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne. Votre objet de recherche sont les réfugiés et les migrations. Et je renvoie à nos auditeurs aux nombreux articles que vous avez publiés dans des revues scientifiques sur ces sujets. Et notre troisième invitée qui va nous rejoindre dans un très court instant est l'essayiste Janine Altounian, dont les écrits traitent de la mémoire et de la transmission, et son dernier livre en date est intitulé « Mémoire du génocide arménien, héritage traumatique et travail analytique ». Alors, cette notion d'identité peut renvoyer immédiatement à ce débat qu'il y a sur l'identité nationale et qui fait rage, on peut le dire, en France, mais cela n'a rien à voir, c'est un hasard. Nous n'avons pas choisi de parler de l'identité arménienne ce matin pour cette raison. Nous avons voulu nous pencher sur cette notion éminemment plurielle, plus que tout autre sans doute, puisque cette identité est celle de millions d'individus dispersés à travers le monde qui se sont constitués au travers de leur ascendance arménienne et de l'environnement du pays où ils sont nés. Cela va sans dire, chacun le sait, un Arménien né en France ne sera pas le même qu'un Arménien né au Liban, aux États-Unis et a fortiori en Arménie. Mais justement, c'est quoi un Arménien de France? Et pour commencer, la première question que je vais poser à nos invités est très simple et très complexe. Vous-même, comment vous définissez-vous? Qu'est-ce qui vous détermine en premier lieu lorsqu'on vous demande à l'énoncé de votre nom? Ah, vous êtes Arménien? Ou bien est-ce qu'on vous dit de quelle origine êtes-vous? Quelle est votre première réaction, votre premier sentiment, Hérold Alexanian?
Bon, moi, je dis que je suis arménien avec une carte d'identité française. Alors, ça passe ou ça passe pas, mais moi, c'est pas pour de la provocation, c'est que je me vis comme un déplacé historique ou historiquement spatial.
Mais d'entrée de jeu, quand on vous pose la question,
ah,
vous
je suis
dites,
arménien, oui. Non,
je suis un arménien avec une carte d'identité française.
Ouais, ouais, enfin, c'est pas à tous les coups, mais c'est ça. C'est une carte d'identité, ça fait pas. Ça fait une carte, mais ça fait pas une identité.
Et vous-même, Zovinal Kevonian?
Un peu de la même manière, je ne fais pas de mention des papiers d'identité, mais c'est vrai que je me présente comme arménienne. Mmh. Et moi, c'est une question très, très habituelle pour moi, parce qu'avec mon nom et mon prénom, ça ne rate pas. J'ai toujours
évidemment
droit à cette question de savoir, mais qu'est-ce donc que cette chose que Zovinal Kevonian? Donc c'est vrai que c'est une question à laquelle je réponds de cette manière-là également.
Donc spontanément, tous les deux, vous êtes, quand on vous pose la question, arménien? Et arménien, bah, de France. Donc ça rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et nous allons prendre un instant pour accueillir notre troisième invitée, Janine Altounian, que l'on va laisser s'installer. Bonjour et bienvenue parmi nous.
Excusez-moi, le RER a eu du retard.
On imagine qu'il y a pu avoir un problème de transport. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler donc de ce thème complexe qu'est l'identité arménienne. Et la question que je posais à nos invités avant votre arrivée est vous-même, qu'est-ce qui vous définit quand on vous dit « Ah mais, bon, alors Janine Altounian, mais de quelle origine? Vous êtes quoi? Vous venez d'où? » Qu'est-ce que vous répondez?
Alors, je dis, je suis française d'origine arménienne.
Voilà, donc on a eu les deux réponses. Je suis arménien avec des papiers français et je suis arménienne tout court. Et la troisième réponse, je suis française d'origine arménienne. Donc, c'est en général, effectivement, les deux réponses qu'on peut avoir quand on interroge des Arméniens en France. Vous venez d'où? Vous êtes quoi? Et je trouve ça très intéressant, c'est ce terme d'origine, parce que si on prend du côté anglo-saxon, cette formule n'existe pas. Quand on vous demande ce que vous êtes, on vous dit, vous répondez, je suis descendant d'Arméniens, ce qui donne une notion de proximité. On a l'impression vraiment que on est dans une descendance directe, mais ça pourrait être aussi pris négativement, puisque c'est un petit peu comme si on descendait à l'instant du bateau, ce fait qu'on est toujours marqué par le saut de l'immigration. Donc c'est à double tranchant, mais en même temps, ça donne cette notion de proximité avec l'identité. Alors, donc...
Excusez-moi, je peux préciser quelque chose, oui. Parce que je dois dire aussi que ça dépend de la personne à qui je parle. Lorsque je parle dans le milieu des psychanalystes, chez lesquels je me trouve souvent, je dis « je suis arménienne ».
Alors, on va justement revenir sur ce qui fait la différence, pourquoi dans certains milieux, on va plus facilement dire qu'on est arménienne ou arménien, et dans d'autres, se contenter de l'origine. Est-ce que ça veut dire, on va commencer avec vous, Janine Altounian, qu'on est double, en fait, en permanence, puisque vous êtes parfois arménienne et parfois d'origine arménienne. Cette dualité, est-ce que ça, c'est le signe de l'identité arménienne, selon vous ?
Oui, évidemment, et c'est aussi une dualité par rapport au champ de travail. Parce que si je dis, quand je me trouve dans un milieu de psychanalyse, je suis arménienne, ça veut dire essentiellement que mon travail consiste à me pencher sur de quoi est-ce qu'on hérite quand on vient du... Quand on est de survivants du génocide arménien. Donc c'est par rapport au psychanalyste du trauma que je précise que je suis arménienne.
Oui, pour justifier votre champ de recherche, pour expliquer votre champ de recherche.
C'est ça.
Mais sinon, spontanément, cette part de vous-même n'est pas assez présente ou elle n'est pas constitutive de l'ensemble de votre identité, en fait.
Non, mais je dirais qu'elle en forme le noyau. Mais que dans certains lieux, puisque j'en viens encore au lieu, on n'est pas censé s'occuper du noyau. Donc il ne faut pas les encombrer avec le noyau.
On revenait toujours à la psychanalyse. Alors, Hérold Alexanian, là, on parle de noyau fondateur. Là, c'est intéressant quand même, parce que vous dites « je suis d'origine arménienne », mais vous dites « c'est le noyau de mon identité ». Donc,
oui,
c'est
évidemment.
Plus que l'origine.
Enfin,
c'est le point de départ.
Évidemment.
Mais l'origine a quelque chose de tellement lointain dans la terminologie aussi, qu'on a l'impression que parfois, c'est vraiment loin, 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 alors que c'est le point de départ. Le noyau. Hérold Alexanian, vous-même, est-ce que vous avez eu une prise de conscience de cet état d'être arménien ? Est-ce que ça vous est apparu un jour ?
Non, ça s'est passé. Je pense que ça dépend où on vit et comment on vit. Et en parlant de noyau et d'origine, alors quand en plus on vient un peu de la région de Mouche ou d'Alashkelt ou par là, c'est encore plus marqué. C'est encore plus marqué, c'est-à-dire qu'on se pose même pas la question, on se le prend...
Mais attendez, vous venez de France,
vous êtes né ici...
Mes grands-parents,
mais c'est présent, présent. Oui. Moi j'ai vécu ce qui s'appelait les unions compatriotiques, où je rencontrais des gens de Mouche, comme il y avait d'autres unions qui le faisaient, voilà, mais pour moi c'était un présent, ça s'est jamais posé, ça n'a jamais été remis en cause... Et puis la deuxième chose, c'est un peu, pour rejoindre ce que dit Janine, c'est ce poids, cette souffrance qu'on comprend pas au départ, puisque les grands-parents, les parents se taisaient, enfin, ou parlaient très peu, ou alors pleuraient.
Alors voilà. Vous êtes ce qu'on appelle la
troisième
génération.
Ouais, ouais, si on...
Et Janine Altounian, vous êtes la deuxième.
Seconde,
la deuxième. Donc c'est intéressant, parce que vous hochiez la tête quand Hérold Alexanian disait « Oui, on vient de là directement.
Oui. »
Mais on a envie de dire « Oui, c'est plus logique pour la deuxième génération. » La troisième, elle est encore directement ancrée dans le village des grands-parents.
Oui, mais il a parlé de sa grand-mère, de ses grands-parents. Donc il est dans le milieu de ses grands-parents et d'une certaine façon, je comprends bien ça parce que quand j'écris, je pars de ce que j'ai reçu de ma grand-mère.
Alors, Zovina Kevonian, même question, est-ce que vous-même, vous avez eu un moment fondateur, un moment clé de cette appartenance, de cette identité ? Vous êtes née avec ça dans le biberon.
Oui, moi je crois que je n'ai pas eu de révélation identitaire à un moment donné.
Mais par défaut, j'ai envie de dire, il n'y a pas un moment donné où on prend conscience qu'on est autre chose ?
Moi je n'ai pas eu ça, tout simplement, peut-être.
Mais qui l'a eu ?
Je pose la question.
Parmi nous trois, parce que moi non plus, j'ai pas eu de révélation à ce sujet.
Parce que parfois, on peut ne pas s'apercevoir qu'on est... d'une origine différente, puisqu'on la vit au quotidien, mais c'est à l'école parfois qu'on a des remarques qui vous font comprendre que ben non, vous n'êtes pas comme tout le monde.
Enfin, en tous les cas, dans mon cas, il n'y a pas eu de révélation. Non. Enfin, je pense que j'ai baigné là-dedans. Moi aussi, j'étais à Mouche quand j'étais petite. Ça peut être aberrant, mais bien que je sois née à Paris 12e. Mais effectivement, c'est de manière assez directe et totalement naturelle que les choses se sont faites dans mon cas. Et le rattachement n'était pas, alors à la différence de ce que dit Janine, le génocide ou le traumatisme ou encore ce que tu disais en disant ce silence ou cette tristesse apparente, ça n'a pas été en tous les cas la forme d'identité qui m'a été transmise chez moi, c'était pas du tout ça. Donc c'était d'autres types de filiation et donc voilà, j'ai eu peut-être cette chance de ne pas baigner dans cette atmosphère-là, en tous les cas de pas associer immédiatement l'identité à ce marqueur-là qui était un marqueur traumatique. Donc c'est vrai que dans mon cas c'était peut-être différent de ce point de vue-là. Par contre, la différence, elle se sent en fonction des lieux d'énonciation.
Oui.
C'est ce que disait Janine. En fonction des lieux d'énonciation, c'est-à-dire des endroits où l'on se trouve, soit du point de vue professionnel, soit du point de vue amical, soit du point de vue des activités diverses que l'on mène, ou des lieux que l'on traverse lorsqu'on va à l'étranger, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on apparaît, alors soit en représentant de je ne sais quoi, parce que les gens se font une idée de ce qu'on est ou de ce qu'on est censé représenter, ou on est sommé en quelque sorte de répondre à des définitions ou à des formes d'identité que l'on nous attribue. Et là, il y a une obligation de dire ce que l'on est, parfois, voire même de le transvestir, parfois, voire même de le rendre traduisible pour un public qui ne comprend pas vraiment ce que l'on est. Donc là, à ce moment-là, je pense que l'on joue, mais peut-être même que l'on joue assez parfois consciemment, des différents positionnements, en réalité, que l'on prête à son identité. Donc voilà comment je répondrai à la question.
Alors, pour compléter, oui. La question de Janine, c'était mais est-ce que ça peut être possible autrement dans les parmi une des 10 interviews que j'ai faites pour rédiger cet article que j'ai présenté à l'université de Yerevan, un homme d'une cinquantaine d'années, le papa français, la mère française, non le papa arménien, le père arménien, la mère française, c'est la mère qui l'a poussé à prendre connaissance de ses origines, parce qu'elle avait peur, elle en avait marre qu'on prenne son fils pour un Algérien. Non, mais pour te dire, ça peut prendre des chemins complètement bizarres. Hein, c'est comme pour beaucoup de gens dits de France, arméniens de France, ça va être la parole du grand-père, ça va être les comportements du père ou de la mère, ça va être des odeurs, ça va passer par...
Bien sûr. La question de l'identité, évidemment, est intrinsèquement liée à celle de l'individu. On est par rapport à ses parents et ses grands-parents, à son entourage familial, et en fonction de la relation qu'on peut avoir avec ses parents ou son entourage familial, son groupe, être plus ou moins rejetant ou plus ou moins adhérent à cette identité. Mais j'aimerais bien revenir quand même à cette question du génocide, parce qu'elle est fondatrice pour beaucoup d'Arméniens, de diaspora en tout cas, de cette identité arménienne. Et si on part de ce principe, on se dit l'identité arménienne est éminemment mortifère. C'est comme le chat d'une aiguille qui obligerait à passer au travers de cette question-là pour être arménien.
Alors, d'abord, je voulais préciser quelque chose et après je reviendrai sur le mot mortifère qui ne me plaît pas. C'est par rapport au moment de révélation. Alors, je dirais que moi, il n'y a pas une révélation. Je suis née dans un milieu arménien. Je voyais bien que la question ne se posait pas. Mais il y a un moment où j'ai eu une attitude active par rapport à ça. C'est-à-dire que, mais ça s'est arrivé tard, c'est-à-dire que j'ai fait mes études, j'étais à l'école, j'ai été étudiante, etc. Et c'est lorsque j'ai commencé à écrire que j'ai activement dit « je suis d'origine arménienne » ou « je suis arménienne ». C'est-à-dire c'est un rapport actif dans l'énonciation. Alors qu'avant, ça va de soi qu'on n'est pas comme les autres, Voilà.
En fait, vous affinez à la question que je posais de façon un peu large. Quand je parlais de révélation, c'était dans l'action, évidemment.
Oui.
À quel moment vous vous sentez suffisamment arménien? C'est la question que je pose aussi à tous nos auditeurs, pour pouvoir être un acteur de cette identité.
Le dire n'est pas innocent. C'est souvent un dire de type politique.
Tout à fait. Bon, alors sur cette notion donc d'identité mortifère qui vous fait bondir.
Parce que moi j'ai effectivement vécu dans un milieu où régnait une certaine forme de malheur dans l'espace, mais en même temps il y avait une affirmation de la vie qui était très, très dynamique. Et lorsque il m'arrive de parler dans un certain public, je me rends compte que cette affirmation de la vie et ces stratégies de survie et même de plaisir à la vie sont des choses qui intéressent beaucoup les autres. Ceux qui, essentiels, disons par définition, ne sortiraient pas d'un génocide. Mmh. Donc il y a un rapport à la fabrication de la vie, au maintien de la vie, qui n'est pas du tout mortifère. Et qui fait sans doute que nous sommes ici à nous parler.
Sauf que cette notion d'identité mortifère, elle revient dans les entretiens que vous avez pu avoir, Harold d'Alexandre.
Bah le premier mot,
le
c'est
génocide,
justice, reconnaissance.
Non, attention, là, on n'est plus dans le même état d'esprit. Justice, reconnaissance, les trois mots
qui viennent en premier.
Oui, mais revenons à cette notion de génocide.
Ah, oui,
les gens que vous avez pu rencontrer pour l'enquête que vous aviez menée, dans quel état d'esprit font-ils référence au génocide pour se définir en tant qu'Arménien ?
Ce qu'ils y ont entendu, ou ce qu'ils ont compris, ou ce qu'ils ont imaginé de leurs parents et grands-parents. Ça dépend de la génération à laquelle on s'adresse. Mmh. Et c'est le premier mot qui vient. Je dis pas que c'est mortifère, je dis que c'est un saut. Pour moi, j'appelle ça un chaos. Partir duquel on doit se réorganiser.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez alors de ce rejet qu'une certaine partie de la troisième génération a pu avoir, justement, en disant « Ah non, mais moi, le génocide, le sang, les larmes, la douleur, la tristesse, j'en peux plus. Moi, les Arméniens, ça m'étouffe. » Ce sentiment, justement, d'être pris dans cette ambiance douloureuse, Zovinar Khevonian. Est-ce que ça prédomine quand même chez beaucoup de jeunes?
Pour répondre à ça, moi je dirais une chose, c'est que, alors en se plaçant du point de vue de l'historien, c'est que l'identité est une construction. Non seulement c'est une construction, donc c'est une construction historique qui se déploie dans le temps, qu'il y a des contextes divers et aux divers acteurs sociaux, communautaires, qui peuvent justement utiliser un vocabulaire ou manipuler des notions ou les orienter dans un sens. Et par rapport à cette génération-là, ce qu'il faut voir, c'est que la mobilisation de la notion de génocide est datée historiquement. C'est-à-dire que c'est daté, c'est-à-dire qu'il y a une période où une partie des acteurs sociaux, alors on parlera des gens qui ont eu un rôle dans l'organisation de la communauté, qui ont eu des fonctions, ont mobilisé cet élément comme élément de référence identitaire, et ça on peut placer ça à partir des années 60 en particulier, pour définir cette identité. Mais pourquoi ? Parce que c'était une forme de réaction à quelque chose qui avant n'a pas été mobilisé comme tel. Quand on lit les écrits de l'entre-deux-guerres, par exemple, et en particulier les productions des unions compatriotiques, qui étaient l'un des éléments fondamentaux sur lesquels se sont regroupées les identités, parce qu'il n'y avait pas non plus d'identité unique avant le génocide. Ce serait une construction, là aussi, de supposer une identité unique. Justement, l'identité arménienne a toujours été multiple et plurielle, et les premiers camps de réfugiés, les gens se regroupent par zone et région d'origine, et reconstitue les filiations et les réseaux par ce biais-là. Donc on a vraiment une différenciation dès l'origine qui existe. Et bien là, pendant la période jusqu'au... Et ce qu'on était avant, c'est extrêmement riche. D'autant plus que les Arméniens sortaient de ce qu'on appelle la Renaissance culturelle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, où on a un effort considérable dans la construction des écoles, dans la construction des bibliothèques, dans la mobilisation des femmes en particulier, dans les associations de toutes sortes. Et donc, on sort d'une période de ce qu'on appelle la Renaissance culturelle. Et donc, les années qui suivent le génocide, les 20-30 dernières années qui suivent, sont axées sur le maintien, en tous les cas, ou la tentative de reconstituer ces réseaux culturels, fondés effectivement sur l'identité de la langue en particulier, et sur cette transmission de l'essentiel de cette grande culture arménienne, parce qu'elle est extrêmement vaste et polymorphe. C'est à partir du moment où la nouvelle génération arrive et où le sentiment de danger sur l'identité arrive, en particulier la question de la transmission de la langue, en diaspora, je parle, et pour la France en particulier, parce qu'en Moyen-Orient, les choses ne se passent pas de la même manière, et qu'il y a également toute la question de la lutte politique, la question, ce qu'on appelle la question arménienne au sens large, eh bien, à ce moment-là, dans les discours des acteurs sociaux, vient la question du génocide, puisque ça va être un élément de défense de cette identité qui est en train de se déliter. Et on voit très bien que c'est à ce moment-là qu'apparaissent, en particulier dans la presse arménienne, mais également dans les publications, par exemple, les photographies du génocide. C'est très intéressant. Et je parle des photographies iconiques, c'est-à-dire les photographies de l'horreur, qu'on voit beaucoup moins pendant l'entre-deux-guerres, où on voit la femme et l'enfant, enfin ces fameuses photos qui ensuite ont été reproduites à l'envi, si vous voulez, qui sont des icônes de représentation de soi, qui renvoient l'Arménien à cette image de soi, qui est une image, alors là, mortifère, pour ce qui en est, c'est une image mortifère. Donc, pour moi, cette période-là, elle est datée historiquement. Elle a des raisons. Je pense qu'il faudrait faire des vraies analyses sociologiques et socio-historiques sur cette construction-là. Et donc, les gens qui ont baigné dans cette période-là, si vous voulez, ont eu droit à cette focalisation, à cette fermeture, en quelque sorte, sur cette définition-là.
Mais c'est très intéressant parce que vous êtes en train d'expliquer ce silence, ce qu'on a appelé le silence des Arméniens jusqu'aux années 60, n'était pas un silence complet. C'était juste sur la question des revendications ou de la lutte pour la reconnaissance du génocide qu'on n'en parlait pas. Mais sinon, il y avait une volonté de cultiver, d'entretenir cette culture qui était omniprésente, en fait. Donc, c'était pas un silence sur tous les tableaux, c'était...
Non, et pour les revendications, les revendications sont considérables dans les années 20. Elles sont mal connues des Arméniens eux-mêmes. Mais les Arméniens se battent à la Société des Nations pendant l'entre-deux-guerres. Oui, il y a énormément de revendications, très concrètes d'ailleurs, beaucoup plus concrètes même que ce qu'on fait encore aujourd'hui, 100 ans plus tard, donc ce qui est très intéressant. Donc, sur le terrain politique aussi, c'est des batailles perdues. D'accord. C'est pour ça que les batailles perdues, l'histoire ne les retient pas. Mais il y a des batailles. Donc, même la question politique est posée, mais d'une autre manière.
Donc, c'est très, très intéressant de voir cette construction identitaire à travers l'histoire. Là, on vient de voir effectivement comment ça s'est mis en place et pourquoi aujourd'hui on a ce sentiment que ça ne tourne qu'autour du génocide. Harold Alexandrian, vous vouliez réagir à ce que...
Réagir, oui, non, oui et non. On va aller dans le même sens. C'est-à-dire que... elle est historienne... Elle est, on va dire, une intellectuelle, mais au niveau de la population, dans des quartiers arméniens, j'ai parlé d'ici Mouinou, mais la formule, ça va pas être tellement différent. C'est vrai que ça fait écran. C'est vrai que toute cette histoire-là, l'histoire, y compris des communautés, est mal connue ou quasiment inconnue. Et dans ce sens-là,
c'est... Mais ça rejoint ce que vient de dire Dolina.
Ça bloque.
C'est qu'on est en plein dedans.
Et nous, on avait, à la troisième génération, on avait vraiment besoin, je vais dire quelque chose qui va choquer, mais qui descende des ambassadeurs turcs, quoi.
Alors, Janine Altunio,
c'était un soulagement.
Vous voulez réagir aussi
à... Oui, je voulais dire que je suis sensible, effectivement, à l'aspect de la construction par l'histoire, mais je veux dire que ça rejoint un peu ce que dit Harold. C'est-à-dire que moi, je suis d'une famille dont... Enfin, mes parents n'étaient pas cultivés, c'est-à-dire ils n'avaient pas été instruits. C'est-à-dire que je recevais la culture de façon infraverbale, dans les gestes, dans la manière de vivre. Et ils n'avaient pas eu la chance d'aller dans les écoles qui leur dispensaient la culture. Mais ce qui est très précieux lorsque précisément il y a un mot, le génocide, c'est que ça donne un mot, ça prête un mot par rapport à ces choses qu'on sent et qu'on ne sait pas exprimer. Chez moi, ça s'est déclenché au moment où est sorti l'utilisation du mot et la pensée du concept, enfin de ce qui s'était passé, qui donnait un mot à ce que je vivais dans ma famille. Ça s'est fait au moment de la sortie du livre de Carzou, un génocide exemplaire en 1975. Mais j'avais auparavant commencé un petit peu à me dire mais qu'est-ce qui se passe là, d'où est-ce que je viens, et j'avais commencé à aller au cours d'Anaïde Termination, mais ça c'était en rapport avec mon travail analytique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de cette construction pour pouvoir dialoguer avec ceux qui ont le même langage.
Alors, pour revenir à cette question de l'identité forgée à travers l'histoire et qui met la notion du génocide, la question du génocide sur le devant de la scène, lorsqu'il y a eu la reconnaissance du génocide par la France en 2000, de nombreux Arméniens ont dit à ce moment-là « je me sens enfin reconnu dans ce que je suis ». C'est-à-dire que la reconnaissance de l'histoire valait reconnaissance de l'individu. Alors, effectivement, il y a eu cette construction de l'identité dont vous parliez, Dovina Kevonian, qui a fait que les Arméniens, sans s'en rendre compte, se sont forgés leur identité à travers cette histoire du génocide parce qu'on leur avait presque imposé. C'était une décision, j'ai envie de dire, politique, puisque vous, comme vous l'expliquiez. Au point qu'on en perde de vue qu'on n'est pas que ça, puisqu'on attend d'être reconnu dans son histoire par la France pour être reconnu en tant qu'individu. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui forge aussi l'identité arménienne en dehors de cette histoire du génocide, en dehors de 1915? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre? Errol Alexander.
Bon, les gens se raccrochent à... Bon, ils se raccrochent plus tellement à l'Église. Hein. Ils constatent, en tout cas sur un secteur... Hein. Je tiens à être prudent, c'est les gens avec qui j'ai eu des entretiens. Il y a un constat de carence de l'Église. Par exemple, à Issy-les-Moulineaux, l'Église protestante est beaucoup plus active que l'Église apostolique. Et quand même, beaucoup d'Arméniens se reconnaissent ou s'identifient par rapport à l'Église apostolique. L'école, oui.
Mais alors, on va s'arrêter un instant sur l'Église. L'Église, ça représente quoi, selon vous, dans l'imaginaire collectif arménien? Moi, j'ai entendu souvent des gens me dire « je suis pas pratiquant, je suis même totalement incroyant, mais je vais me marier à l'Église, parce que se marier à l'Église arménienne, c'est se marier en terre arménienne, devant la nation arménienne, alors que à la mairie, bah, c'est en tant que citoyen français. Mais en tant qu'arménien, je vais à l'Église parce que c'est une parcelle de terre arménienne. » Donc il y a quand même cette notion de... L'Église, elle joue un rôle dans cette identité.
Ouais, bah, ça fait un... Moi, je vais peut-être choquer, mais ça fait un peu dépotoir. C'est-à-dire qu'on accroche, moi, ce que j'appelle les porte-manteaux. On va à l'église, on va à ceci, on va à cela. Il faut voir le désespoir de certains prêtres, hein, ne serait-ce pas quand ils prêchent, quoi. Moi, j'ai écouté un prêche. Je suis pas forcément croyant, mais c'était sur pour le 15 août. Il a développé en arménien sur la féminité à partir de la fête de la Vierge, la féminité et qu'est-ce que c'est que la femme pour les enfants. C'est assez étonnant dans une île. Mais ça passe au-dessus de la tête des gens, non pas parce qu'ils connaissent pas l'arménien, mais parce que c'est ce que j'appelle des rituels. Oui, on va se marier
Est-ce que ces rituels sont pas constitutifs justement, Jaline Altounian, c'est indispensable ces rituels pour fonder une identité?
Oui, c'est-à-dire que moi, on me demande ce qu'on m'a demandé récemment dans une émission à France Culture, est-ce que vous êtes croyant? J'ai dit, moi, je ne suis pas croyante, mais ma grand-mère m'en est. Oui, c'est ça.
Je ne suis pas croyante, je suis arménienne.
Voilà. J'ai expliqué, j'ai dit, ma grand-mère m'emmenait à l'église arménienne. Bon, alors, effectivement, pour moi, aller à l'église, j'y vais pas souvent, mais je me suis mariée effectivement à l'église et j'ai apprécié votre expression en terre arménienne, oui. J'ai même été très émue quand vous avez dit ça. C'est-à-dire que, oui, les rituels, c'est très important pour structurer la vie. Même si, enfin, personnellement, je crois que je ne crois pas en Dieu. Mais pour moi, être arménien, c'est effectivement, j'ai baptisé mes enfants à l'église arménienne alors que leur père est français. Ça a du sens.
Mais justement, ça n'a pas de sens trop folklorique aujourd'hui? Parce qu'on est des générations qui sont dans une relation à l'Église peut-être encore plus consommatrice, j'ai envie de dire.
Moi, mon opinion qui va choquer certains, c'est que ce qu'on a perdu, on l'a perdu fondamentalement. Et je ne sais pas ce qui va rester, mais je suis très choquée lorsque j'entends des jeunes dire « Nous, ça suffit, ces histoires-là, il y en a marre. » Alors là, je trouve que c'est un reniement de « Je suis profondément choquée.
Oui. »
Vous avez dit ça tout à l'heure, quelle est votre réaction? Non, je pense que on ne peut pas accepter ce qui s'est produit. Il faut s'exprimer politiquement. Qu'on soit arménien, qu'on se sente arménien ou non, mais c'est impossible d'accepter un tel scandale.
Oui, mais alors ça rejoint toute la question qu'on posait au départ. Pour se sentir choqué, révolté, est-ce qu'il faut avoir un sentiment identitaire arménien ou normalement n'importe quel individu devrait se sentir révolté par cette injustice?
Non, mais il s'agit quand même de ses propres ancêtres.
Oui, mais justement, c'est ce que j'allais dire. A fortiori, quand on est soi-même d'origine arménienne. Alors ce rejet, il faut quand même aussi s'interroger sur ce rejet.
Oui.
Errol d'Alexandre.
La quatrième génération aussi, c'est quand ils disent, les jeunes disent, peuvent dire, pas tous, il y en a marre.
Mais il y en a marre de quoi?
Il y en a marre de comment est structuré.
Oui, mais c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, le génocide, il y en a marre.
C'est pas le génocide. Non, c'est pas le génocide. C'est et notre identité, est-ce qu'il y a de la joie? On prend une expression banale, on va dire. populaire, tsavot danem. Mm. En Arménie ou en France, je leur dis, mais n'emportez pas ma douleur, emportez ma joie. Ça suffit, c'est cette histoire de douleur qui est toujours présente. C'est pas un reproche, hein.
Oui, alors, voilà. Janine Altounian, non, ça
mais
vous
moi,
fait
je
sourire.
Pense qu'il faut bien évidemment rester arménien, mais aimer les chansons de Charles Trenet, d'être français.
Ah oui, non, mais
parce qu'il y a de la joie, ça me rappelle de Charles Trenet. Ouais. Le problème, c'est de savoir trouver la vie où elle existe. Moi, je pense qu'on ne peut pas renier, c'est impossible de renier la vie qui nous a été transmise, qui vient de la survie de ces gens qu'on a exterminés. Mais à partir du moment où je suis là, moi, j'aime bien Charles Trenet, j'aime bien Jacques Brel. Tout comme Aznavour.
Oui, mais alors, Zovinal Kevonian, là, on parle d'interdiction de renier, on ne peut pas oublier, il faut... On est dans des termes peut-être un peu conditionnants, et c'est peut-être ça qui fait que les jeunes aujourd'hui, n'ayant pas, ben, j'ai envie de dire, le terreau suffisamment nourri, n'arrivent pas à se retrouver dans ces revendications, puisque leur identité est encore plus diluée, j'ai envie de dire, peut-être que... pour d'autres qui sont naturellement arméniens. Comment faire ?
Enfin, moi, je trouve qu'il y a plusieurs questions là dans ce qui vient d'être posé.
Oui.
Ouais, il y a de nombreuses questions. La question de ne pouvoir renier un crime contre l'humanité, il n'y a pas besoin d'être arménien pour considérer qu'un crime contre l'humanité est intolérable pour l'humanité tout entière. Donc là, je pense que ce n'est pas tant rattaché à l'identité arménienne ou pas arménienne. Je pense que c'est un positionnement humaniste. Voilà. Donc là-dessus, même si un jeune ne se sent pas arménien, de toute façon, ça ne change rien à la question. Et j'espère qu'il saura se lever si jamais de telles horreurs se reproduisent, quels que soient les peuples ou les individus qui sont touchés. Donc pour moi, là, c'est une posture beaucoup plus générale et humaniste, et qui, d'ailleurs, s'apprend également et se construit. La deuxième question est la question politique. La question politique, c'est de dire, voilà, un tel crime impuni ne doit pas rester impuni. Pour moi, ça ne fait pas partie du registre mortifère, l'adjectif que vous avez utilisé, absolument pas. C'est un registre, au contraire, est un registre qui sert à délier ce nœud entre le bourreau et la victime. Parce qu'il y a un nœud, il y a un lien organique entre le bourreau et sa victime, tant que la victime est niée en tant que victime et tant que le bourreau ne reconnaît pas le crime. Étant en plus... dans un environnement et dans un contexte de négation globale. C'est ça aussi le problème des Arméniens, c'est que c'est pas la question du couple turco-arménien, c'est qu'autour, pendant des années, il y a eu cette chape de plomb qui faisait que le discours arménien était inaudible et que cette souffrance subjective, je suis pas psychanalyste, eh bien, ne pouvait pas être objectivée par le discours qui disait, mais oui, il vous est arrivé ça. D'où le soulagement de 2001, qui était de dire, mais puisqu'ils disent que ça existait, donc je objectivais mon identité. Donc ça, la question politique, c'en est une autre. Et pour moi, la posture politique est une posture éminemment vivante.
Ah,
elle peut être fondée, infondée, on peut ne pas avoir les mêmes opinions sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est un acte de vie parce que c'est une inscription dans le présent. Ce n'est pas une inscription dans le passé, c'est une inscription dans le présent, le futur. C'est-à-dire, c'est un projet de « je veux ceci, je souhaite cela, je veux m'inscrire donc dans une identité à construire ». Pour moi, quelles que soient les options, et on n'est tous pas d'accord d'ailleurs au sein des communautés arméniennes sur ces sujets-là, pour moi, c'est une posture présentielle. C'est-à-dire, c'est d'affirmer « j'existe, j'ai une position ». Et je voudrais ceci, obtenir cela. Donc pour moi, la notion de justice que tu maniais tout à l'heure, la notion de réparation, qui va beaucoup plus loin, parce que dans réparation, il y a à la fois réparation individuelle et réparation collective, parce qu'il y a aussi un sens individuel à la réparation. On se répare en étant réparé, donc il y a quelque chose de double, si vous voulez, est pour moi extrêmement dynamique. Donc pour moi, là, c'est un deuxième registre qui est celui du registre politique. Quant à la question de savoir si le rejet d'une génération plus récente par rapport à la question du génocide est lié à cette forme de contrainte du « tu dois prendre le relais », ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'une forme d'obligation, d'une contrainte bien de porter ce flambeau de la justice à établir. Je ne suis pas sûre que ceci soit l'élément du rejet. Je pense que l'élément du rejet est peut-être la faiblesse ou la difficulté des structures au sein des communautés d'être dans le présent.
Oui.
Beaucoup plus que celle des individus. Donc c'est pour ça que moi je dirais qu'il y a peut-être un retard de ce point de vue-là, de la capacité de réflexion, d'analyse et de mobilisation de nouveaux discours au sein des structures. Et je ne jette pas la pierre aux structures parce que je sais à quel point, c'est pas du tout une critique que je fais, parce que je sais à quel point c'est difficile de manier le sujet. Mais je me dis que peut-être c'est cette force d'initiative en quelque sorte et cette inscription dans le présent
de construction identitaire, c'est le mot qu'on va retenir.
Dans les interviews, quelle que soit la classe sociale, l'âge, c'est étonnant, même qu'à 84 ans, un type qui il est de ce qu'on appelle la première génération, il ne parle pas l'arménien parce que sa grande sœur a dû l'élever. Et pour qu'il s'adapte mieux, elle lui a parlé directement en français. Il a aujourd'hui encore une soif de l'histoire, la musique, et cette inscription dans le présent, même à 84 ans. Et alors, chez les jeunes, je suis complètement d'accord avec vous deux, c'est plutôt cette carence en disant on va pas s'inscrire tout le temps dans le passé. Et je pense que ça fait verrou. La question du génocide obture le présent, le futur. Quel projet, surtout les jeunes qui vont à la fac, par exemple, qui sont confrontés à un autre mode d'approche de l'histoire, du temps, du contemporain, et qui, quand ils vont dans un milieu arménien, fête arménienne, machin, bal et compagnie, ils trouvent que c'est un peu fermé, tout ça. C'est un peu,
ils sont pas obligés d'aller à cet endroit-là. Ils sont pas obligés d'aller à ces endroits-là. Il y en a d'autres.
Mais comment on la vit, cette identité aussi?
Oui, évidemment. De toute façon, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, il n'y a pas de tu dois. Il n'y a aucun tu dois. Moi, je suis très frappée de voir de jeunes arméniennes de la génération de mes enfants qui font des études, comme par hasard, de psycho, etc., me dire ce qu'elles ressentent, et ça me frappe parce qu'à tant d'années d'intervalle, elles ressentent les mêmes choses que moi. Donc ça leur a été transmis et c'est comme ça. Si on reçoit ça, on en fait quelque chose, mais il n'y a pas tu dois. Non, alors ce que je voulais aussi préciser, et ça complète peut-être ce que disait Zovinar, c'est-à-dire que dans le combat politique est un combat qui est axé sur la vie, parce que il s'agit d'entrer en conflit et de dialoguer donc conflictuellement ou non conflictuellement avec les partenaires tiers, parce que en réalité le silence, effectivement, on laisse tomber le partenaire turc qui n'en est précisément pas un pour l'instant, en tout cas à mon avis, mais les vrais partenaires sont les tiers. Or c'est avec les tiers que on a obtenu donc la reconnaissance du Parlement. C'est un rapport à la vie, au présent justement. Oui. C'est avec eux qu'il faut établir des contacts. Bon, alors oui, enfin moi je crois qu'il n'y a pas tu dois. Il faut laisser les choses arriver comme elles arrivent. Puis il faut dire aussi que les choses arrivent quand on a un peu le temps dans la vie, ou ce qu'on est jeune, il faut d'abord faire ses études, peut-être, quand on est une jeune fille, peut-être aimer avoir des enfants, trouver un amoureux, enfin bref, des tas de choses. Et c'est à ce moment, au bout d'un certain temps, pour certains, qu'on se dit, mais alors ma grand-mère, mon grand-père, d'où est-ce qu'ils viennent? Il y a un temps pour chaque chose, il n'y a pas de tu dois.
Alors, justement, sur cette évolution de la communauté, de l'identité arménienne, génération après génération, nous sommes en ligne avec Asmik Kevonian. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la directrice de la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville. Inutile de vous présenter à nos auditeurs. Mmh. Alors, donc, depuis 40 ans que cette MCA est ouverte et qu'elle accueille des enfants pour des cours de langue, de civilisation, de danse, de théâtre, de dessin, et j'en passe, et de musique, bien sûr. Vous avez pu voir comment cette demande identitaire a pu évoluer et comment les parents ont changé dans leurs attentes. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 40 ans? Quel est votre regard donc sur cette évolution?
Oui, enfin, il y a 40 ans, l'association de la Maison de la Culture Arménienne était créée. Les activités ont commencé plutôt en 77, et justement, quelque chose de complètement novateur à cette époque-là. On a commencé par un cours de danse, hein, comme tout le monde, et puis, ayant moi eu un itinéraire différent, puisque n'étant pas d'une communauté, j'ai grandi entre les Italiens et les trois familles d'Arméniens à Montreuil, et je venais passer mes vacances à Alfortville, et je voyais bien qu'il y avait une différence entre les familles d'Alfortville et la mienne.
Oui.
Et puis j'ai eu une deuxième rencontre quand dans les années 65 je vais à Beyrouth et là je m'aperçois que c'est encore différent. Puis à Kessab, ville arménienne, mais en Syrie, où là, l'arménité est quelque chose du vécu, du quotidien. Mmh. Et je me dis, mais alors, il y a vraiment différentes choses. Et puis, il se trouve que je vais en Arménie en 76 et que je veux rentrer à Etchmiadzin parce que c'est Pâques et qu'on me dit « Tuk turistik, archevilinistik ». Et j'étais donc touriste dans un pays qui s'appelait l'Arménie soviétique, ouais. Certes. J'ai dit, non, mais touriste, j'aime, rayem, prafain, goukam.
Touriste.
Et non, vous êtes touriste, donc vous vous mettez devant, ce que je n'ai pas fait parce que ça, vraiment, ça me choquait beaucoup. Donc tout ça, bon, ça remuait un certain nombre de choses. Et j'ai proposé à la Maison de la Culture arménienne, dont je venais d'être membre, de créer une activité qui s'appelle Éveil à l'identité et à la culture arménienne. Parce que je partais du postulat que tout le monde n'était pas arménien de la même manière. Et que cette identité, tout le monde ne la vivait pas de la même manière non plus. Alors j'ai commencé par avoir 7 enfants, qui étaient nos enfants d'ailleurs, mais qui étaient des enfants de famille que j'appellerais préparés.
Oui.
Donc il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf des discussions très intéressantes en disant « Mais qu'est-ce que c'est qu'être arménien ?» Personne ne parlait du génocide. Et j'avoue que moi-même, dans mes cours, je n'en parlais que quand ils avaient 11-12 ans, mais pas avant. Et alors, il y a eu toute une période où les enfants ont commencé à affluer à la Maison de la Culture arménienne et qu'ils n'appelaient pas MCA, parce qu'on l'appelle MCA maintenant, ils l'appelaient la Maison arménienne. Donc, on venait à la maison, ou on revenait à la maison. Et puis, pendant tout un laps de temps, j'ai fait des animations scolaires où je présentais les contes arméniens des classes des écoles françaises. Et quand il y avait un petit arménien dans ses classes, qui ne fréquentait pas forcément ni l'école ni la MCA, l'enfant très timidement venait me voir en disant « Tu sais, je crois que je suis arménien, mais je ne sais pas trop comment. »
C'est mignon.
Et ce qui était très intéressant, c'est que les enfants d'autres origines, africaines par exemple, me disaient « Ah, mais maintenant je comprends pourquoi ceci, cela. » Donc tout ça a fait un certain nombre d'expériences. Et au bout d'un certain temps, les enfants faisant la multiplication des cours à la MCA de langue et autres, on fait que l'éveil à l'identité, il n'a plus été nécessaire. Sauf qu'il est revenu ces dernières années.
Oui, parce qu'il redevient nécessaire.
Il redevient nécessaire.
Pour d'autres raisons, en fait.
Parce que les familles, la mixité est très importante. On ne sait plus trop. Et là, j'ai cette année, par exemple, un bouquet de 10 filles de 9-11 ans, dans lesquelles il n'y a que 2 filles qui sont de parents arméniens, dirais-je, et les autres de couples mixtes. Et c'est toujours les mamans non arméniennes qui font la démarche de mettre leurs enfants.
Comme le disait tout à l'heure Hérold Alexandre. Ouais.
Et alors, il y a eu quelque chose d'absolument magnifique. Une des filles a sa grand-mère arménienne, mais qui a, c'est pour ça que je voulais aussi revenir là-dessus, qui est née en Grèce. Donc elle est arménienne, certes, mais c'est une arménienne de Grèce.
Oui.
Et dans l'évaluation, quand je dis aux enfants, quelle est la capitale, au début de l'année, je ne savais pas trop ce qu'ils savaient, quelle est la capitale de l'Arménie, la gosse m'a dit Athènes. Donnez-moi 3 laits. Et elle, pour elle, c'était arménien.
Bien sûr.
Bon, tout ça, c'est très intéressant. Enfin, tout ça pour vous dire que, enfin, en tout cas, pour ce qui est de cette affaire, de cet aspect du génocide, c'est très curieux. Les enfants savent maintenant qu'il y a eu un génocide, mais ils sont quelquefois dans une violence de propos qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on parle, tout le vocabulaire que les jeunes trimballent actuellement, la haine, ceci, de cela, on vous sort ça, alors que c'est pas du tout la manière dont on leur enseigne, bien sûr, les choses. Alors, je voulais vous dire aussi que, à la MCA, on rencontre des gens de partout, et je voulais revenir à l'appartenance du Yelgij.
Oui.
Je voudrais l'employer comme ça. Parce que quand je fais les émissions radio, et que de temps en temps, je refais l'historique de Harper, de Mouche, du Sassoon, alors à ne pas confondre Mouche et Sassoon, je reçois des dizaines de téléphones en me disant, mais moi je suis de là-bas, je ne sais rien, mais vous m'avez, etc., etc. Ça c'est très très important. Et puis je voudrais terminer avec quelque chose de très drôle sur les papiers d'identité, où un ami m'a raconté que son père, qui est maintenant décédé, avait un papier des papiers, français bien sûr, et il y avait lieu de naissance, Boursa, Asie mineure.
Ah oui, chez moi c'est pareil, oui.
Et là, il en a eu tellement assez. Alors Asie mineure, ça faisait AM. Et il en a tellement eu assez qu'on lui repose toujours la même question, on lui dit mais c'est quoi, où c'est Boursa? Et il répond Alpes-Maritimes. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Alors, c'est vrai que la culture arménienne s'enseigne, c'est vrai que l'identité se révèle. Mmh. Et je crois que le premier travail, eh bien, ce sont dans les familles. Il ne faut pas renoncer, ce n'est pas si difficile que ça.
Mais alors, la demande des parents aujourd'hui qui vous amènent leurs enfants, est-ce qu'elle porte... l'atelier d'éveil, c'est vous-même qui avez senti qu'il fallait le remettre au bout du jour. Alors que la demande des parents, elle porte plutôt sur la langue, sur l'histoire.
Sur la langue. La langue a repris ses droits, ses droits à la maison de la culture, en tout cas. Pendant des années, c'était surtout les matières artistiques qui remportaient le plus grand nombre. D'ailleurs, en Assemblée générale, on nous disait, mais pourquoi c'est plutôt les matières artistiques, la danse, la musique, etc., que la langue? Eh bien, je peux dire que depuis 5-6 ans, c'est le nombre, on a 16 niveaux de langue qui sont tous pleins, et sur 320 élèves, 192 font de l'arménien, de 6 ans à 18 ans, et même plus, puisqu'on a des adultes.
D'accord, donc une forte demande.
Ah oui, et la révélation est très, très, très intéressante dans les descendants de couples mixtes. Où un enfant va dire, mais qu'est-ce que tu dis, comment tu parles au grand-père? Et le père dit, je parle en arménien, mais pourquoi moi je ne sais pas?
Et,
et là, on a de nombreux élèves qui sont des descendants de ces familles-là.
Donc c'est un réveil identitaire qui passe par une envie d'utiliser la langue qui est employée par le père ou la mère avec l'aïeul. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là, présent chez l'enfant et qui tout d'un coup prend forme.
Oui, d'où la nécessité de maison.
Oui.
Voilà.
Merci Asmik Evonian pour cet éclairage. En tant que directrice de la MCA, vous aviez effectivement un regard très intéressant à nous communiquer. Donc merci pour cette rapide intervention.
Merci à vous. Au revoir.
J'appelle nos éditeurs à apporter leur témoignage à leur tour 01 43 53 20 74 et à nous faire part chacun de ce que pour eux l'identité arménienne. Et de nous dire, en fonction de la génération à laquelle ils appartiennent, d'où ils viennent, où ils sont nés, est-ce que leurs parents sont nés en France ou ailleurs, etc. Comment ils sont arméniens? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux l'identité arménienne? Alors la langue, je vous ai vu tous hocher la tête autour de cette table lorsqu'Asmik Evonian a dit beaucoup de demandes, un réveil sur la langue. Il fut un temps où l'on disait il faut parler l'arménien, donc je reviens toujours dans ce discours d'obligation. Il faut apprendre l'arménien et c'était un discours qui était difficile à entendre pour la troisième génération puisque... On ne peut pas apprendre une langue si elle n'est pas nourrie de l'intérieur par une identité. Comment justement donner envie et faire comprendre que l'identité passe par la langue? Quand on n'a pas un sentiment identitaire prédominant. Parce que c'est un cercle vicieux, c'est que on se rend compte que la langue est indispensable quand on a un fort sentiment identitaire et qu'on se dit mince, je ne parle pas l'arménien, je ne peux pas aller au bout de mon identité arménienne. Mais tant qu'on n'a pas accédé à cette identité arménienne, on n'a pas l'impression que la langue est indispensable. Alors c'est.
Alors, première chose, c'est moi, ce que j'entends déjà, ça me sert à quoi? J'ai eu la chance, grâce à mon ex-épouse, que mes enfants parlent arménien. Ils ne se sont jamais posé la question. C'est venu naturellement. Pour eux, c'est un outil. Il y a des coups de téléphone en Arménie.
Parce que, quand même, on précise aux auditeurs, votre ex-épouse est arménienne d'Arménie, donc c'est pas qu'ils l'ont appris sans se poser de questions, c'est parce que c'était la langue de leur mère.
Oui, tout à fait. Non, mais elle aurait pu choisir de faire un blocus. C'est arrivé. Il y a des gens qui bloquent parce que, pour pas que l'enfant soit perturbé ou retardé.
Mais faut-il encore qu'il parle le français? C'est ça. C'est qu'en général, quand on ne parle que l'arménien, c'est la langue qu'on transmet, mais pas par choix, parce que c'est sa langue. Que dans les générations nées en France, transmettre la langue arménienne, c'est un choix. Ça pourrait être la facilité de parler que l'arménien à la maison.
C'est les transmetteurs qui manquent. Et les lieux de transmission, peut-être, qui manquent.
On revient toujours
quand je dis une banque, c'est pas un reproche. Mmh. C'est les augmenter, les renforcer. Comme je disais, je sais bien le poids que ça représente aux institutions pour exister. Je crois que... Et peut-être le rejet, le rejet de certaines choses ou de la réaction, c'est on peut pas faire ça, tout ça plus allègrement.
Non, mais je crois que vous avez posé la question fondamentale, à quoi ça sert? Alors justement, Zovina Kevenian, tout à l'heure, vous disiez inscrire l'identité arménienne dans l'avenir, dans le présent, dans l'avenir, dans une construction pour aller de l'avant, pour faire des choses. À quoi ça sert justement de parler l'arménien? Ne serait-ce que de communiquer entre arméniens du monde entier. Donc c'est quand même, à quoi ça sert? C'est la langue qui véhicule l'arménité.
Enfin, moi, je pose pas la question de la langue en termes utilitaristes, parce que là, c'est la question de l'utilité. Et c'est vrai pour avoir entendu des parents qui mettaient leurs enfants dans des écoles arméniennes, par exemple. Évidemment, des parents qui étaient arménophones d'origine, et pour qui l'effort était l'intégration dans le pays d'accueil dans lequel ils se trouvaient, et l'enjeu était bien plus la maîtrise de la langue du pays d'accueil pour que l'enfant réussisse, plutôt que de mettre l'accent sur la langue d'origine, qui n'était pas forcément celle qui était valorisée, tout simplement parce que pour le développement social et économique de l'enfant, on se dit que c'est quand même plus utile. Donc la question utilitariste se pose. La question est de savoir si c'est en ces termes-là seulement qu'elle va se poser, puisque la langue permet d'accéder à une partie de soi-même. Voilà. Et quand on n'a pas la langue, on ne peut pas accéder à une certaine partie de soi-même. Et c'est vrai que les spécialistes du bilinguisme, par exemple, le disent très très bien. C'est pas moi qui fais des études là-dessus, mais il y a des études qui montrent très bien, justement, que l'enjeu de la langue, c'est non seulement l'accès au locuteur arménophone, par exemple le grand-père ou la grand-mère, et c'est ce que disait tout à l'heure Mme Kévonion, mais il y a aussi toute la question d'accéder à une partie de ses émotions, et à une partie de soi-même. Donc c'est vrai que ça peut être un élément qui bloque ou qui gêne effectivement cet accès. Et on le voit par exemple pour des Arméniens de France qui vont aujourd'hui aller en Arménie par exemple, et qui vont apprendre l'arménien là-bas pour échanger avec des jeunes de leur âge dans un projet à la fois universitaire ou un projet d'échange. Donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle dynamique qui est celle-ci. Mais je dirais que la question, moi, à mon avis, qui change, c'est quelque chose de fondamental qui se joue depuis 5 ans à peu près, c'est le rapport aux Turcs. Et moi, je pense que là, dans les choses qui changent, c'est cet élément-là. Parce que tout ce qui se passe en Turquie aujourd'hui change complètement et demande aux Arméniens un effort considérable. Parce que si les Turcs ont un tabou, les Arméniens aussi ont un tabou. Et donc là, pour moi, les changements importants et qui vont obliger à re-réfléchir cette question d'identité, c'est le rapport... Alors, est-ce que tu appelais le partenaire ou le non-partenaire principal,
le Turc.
Parce que les autres ne sont que des tiers, d'accord. Et on est absolument ravis que l'Uruguay, la France ou la Chine reconnaissent ou non le génocide arménien. Mais d'abord, la question principale se pose avec les Turcs. Et donc, la grande évolution la plus actuelle et qui demande à être vraiment réfléchie de la part même des Arméniens, et qui, à mon avis, peut être réfléchie à leur profit, c'est la question de cette ouverture possible ou non d'un dialogue. Et moi, je vois aujourd'hui des jeunes qui vont en Turquie. Ils y vont, ils y étaient l'été dernier, ils vont, ils circulent.
Et pour vous, ça participe d'une construction identitaire, d'une évolution de cette identité automatiquement.
C'est fondamental parce que ça peut aussi permettre de sortir de cette espèce de rôle de victime.
Alors,
aussi.
Parce que
c'est celui à qui on a des comptes à demander. Et celui qui peut en rendre, de manière beaucoup plus directe que cet élément indirect qui était le tiers qui, par sa parole, reconnaît notre statut ou ce qui nous est arrivé.
Alors avant de vous donner la parole sur ce sujet, je voudrais donner la parole à nos auditeurs qui patientent au standard. Bonjour. Allô, c'est à vous. Nous vous écoutons.
Allô ?
Oui, c'est à vous, madame.
Bonjour, Anaïs et Rébéillant.
Bonjour,
à patient. Je voudrais ajouter pour moi qui suis de la première génération, mon père avait 17 ans en 1915.
Oui, de la deuxième génération, ce qu'on appelle la deuxième génération.
Oui, mais moi, je suis née en France de parents issus
c'est
du génocide.
Ça.
Voilà. Et je voulais dire que je trouve que j'ai 3 identités, arménienne, française, mais issue de la culture chrétienne. Et même si on est croyant ou non-croyant, on ne peut pas effacer la dimension chrétienne dans ces 2 cultures. Et je trouve que c'est très important. En tant que peintre, je navigue entre ces 3 cultures. Je travaille aussi bien sur des thèmes sur l'iconographie chrétienne, sur la danse, sur des paysages de Bretagne, de Chypre ou d'autres choses. J'ai peur que l'on réduise notre identité seulement à la reconnaissance du génocide. Nous avons un patrimoine culturel qu'il ne faut pas mettre au second plan.
C'est ce que disait Zovinage tout
à
l'heure.
Oui, absolument. Et ça, c'est très, très important. Et je pense effectivement que, malheureusement, parce que les circonstances sont ce qu'elles sont, nous avons une particularité, nous allons devoir, nous les victimes, devoir aller aider les bourreaux à reconnaître ce qu'ils ont fait. Je pense que là, il y a un travail à faire avec les psychologues, avec beaucoup de gens, avec les historiens, pour faire cesser ce mensonge que le génocide n'a jamais existé. Et là, il y a beaucoup de choses à travailler, mais je pense qu'on ne peut le faire passer par la culture.
Tout à fait.
Et je vais reprendre la phrase d'Aznavour, c'est que je suis à la fois 100% arménienne, ouais. 100% française. Je suis une arménienne qui parle l'arménien. Et pour moi, la révélation de mon arménité, la vraie révélation, a été en 1967, quand pour la première fois j'ai été en Arménie soviétique, et où j'ai rencontré les Arméniens là-bas. Mm-hmm. Et malgré tout, ici, j'ai bien compris que j'étais une Arménienne, comment dire, à double culture, et que l'Arménie, la vraie, elle est là-bas. Ici, nous sommes plus riches, plus pauvres, je ne sais pas, mais nous avons des cultures, nous avons évolué différemment.
Merci.
Ça, c'est sûr.
Merci Anne voilà. Rébellion pour votre témoignage et votre participation à cette discussion autour du thème de l'identité arménienne. Merci. Nous allons prendre tout de suite un autre appel d'auditeur.
Merci, au revoir.
Au revoir. 01 43 53 20 74. Bonjour. Oui, c'est à vous. Allez-y, on vous écoute.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bon, bien, j'avais aussi quelque chose à rajouter. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent a été dit d'une manière tellement simple, tellement accessible, tellement véridique.
Alors,
je les remercie tout d'abord.
Excusez-moi, je voudrais juste vous demander d'éteindre votre poste de radio parce que ça fait écho à l'antenne.
Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé.
Et vous demandez, allez-y, et vous demandez aussi... à quelle génération vous appartenez et si vous êtes né en France, si vos parents sont nés en France?
Alors, je suis de la génération des enfants de rescapés.
Oui.
Et à ce sujet, il y a beaucoup à dire. Si jamais on regarde autour de nous en ce moment, pour tout ce qui arrive, que ce soit tout ce qui nous vient de la nature ou bien lors d'autres sortes de génocides, aussitôt la première chose qu'on dit, ce sont prendre en charge les enfants et leur expliquer ce qui arrive pour qu'il n'y ait pas de séquelles.
Oui.
Eh bien, nous n'avons pas eu ça. Nous avons eu des parents qui essayaient de cacher ce qui était arrivé, mais ils ne pouvaient pas tout cacher, si bien que tout était incompréhensible pour nous. Et on avait toujours notre âme toujours bouleversée, on voulait savoir, on ne comprenait pas. Et je voulais d'abord... Bon, bah alors
une identité voilà. Basée sur la souffrance et l'incompréhension.
Non, parce qu'en même temps, mes parents parlaient aussi d'autres choses. Par exemple, mon père avait des conversations sur l'archéologie. C'est ça qui a éveillé en moi cet amour. Et c'est justement pour cela que je voulais parler. J'ai voulu aussi prendre un peu la parole.
C'est intéressant,
voilà ce que j'ai à dire. C'est que on a perdu, j'espère pas entièrement, nos terres. On parle de la langue, mais il faut parler aussi de nos terres. On a perdu nos terres, mais ce qu'il y a à la surface seulement. En dessous, nous avons tant de richesses inconnues de par le monde, tant de richesses qui prouvent notre culture passée, qui sont en train d'enrichir le musée de la civilisation anatolienne d'Ankara, et non pas,
nos livres, nos cours.
Alors je pense qu'il y a ici un petit travail dans les familles, pour pousser les enfants à l'archéologie, pour que ce ne soit pas des archéologues allemands, français ou autres anglais qui vont sur le terrain, que ce soit nos jeunes à nous, même avec une nationalité française, anglaise, ou je ne sais pas trop quoi, pour qu'ils puissent avoir accès, mais avec des origines et un amour de cette terre qui a été la leur pendant des millénaires.
C'est une bonne idée, ça, cette piste d'études et de formation, l'archéologie, aller faire des fouilles. Oui.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci pour votre témoignage. 01 43 53 20 74. Donc appelez comme ces deux auditrices pour nous faire part de votre témoignage et de votre sentiment par rapport à cette notion d'identité arménienne. Cette identité par la terre, là je me tourne vers vous, Zovinal Kevonian, terre et culture, y a pensé il y a très très longtemps. Effectivement, amener des Arméniens de diaspora à aller sur le terrain retaper des monuments qui appartiennent au patrimoine culturel arménien, ça c'était une grande idée. Parce que je crois que quand on a la terre sous ses pieds, l'identité, elle s'éveille toute seule. Hein.
Mais c'est très intéressant parce que cette organisation, c'est 1977, 76, 77. Et c'est très intéressant parce que c'était une forme de réponse, alors cette fois-ci différente, qui venait compléter la mobilisation sur la reconnaissance du génocide arménien, qui était une réponse qui traduisait aussi l'époque des années 70. Hein, on allait d'ailleurs pas seulement sur les terres arméniennes, on allait aussi jusqu'en Inde, etc. Donc il y a toute une génération
c'était
derrière.
C'était dans l'air du temps.
C'était dans l'air du temps, mais c'était un élément totalement concret. Et c'était... Et la démonstration des débuts, c'était de dire, vous croyez que ces terres sont inaccessibles, mais non, il y en a des accessibles. C'est-à-dire qu'il fallait, la volonté, c'était de démontrer qu'il n'y avait pas l'impossibilité complète d'accéder à un élément concret de son patrimoine. Ça se passait en Iran du Nord dans les années 70, parce que c'était un des seuls endroits où on pouvait accéder à cette époque-là. Et la démarche consistait à permettre à une jeunesse, à l'époque de cette génération-là, d'agir de manière concrète en faveur de son patrimoine, c'est-à-dire de montrer qu'on pouvait s'inscrire dans le présent, et qu'on pouvait inscrire le patrimoine dans le présent et pas seulement dans la déploration des terres perdues, des territoires perdus, etc., qui était le discours dominant à l'époque. Donc c'était assez intéressant parce que par rapport à ce contexte des années 70, ça s'inscrivait dans une volonté d'agir sur le présent. En ce sens, c'était politique.
Alors sur cette question de la terre, on a des auditeurs qui patientent, je vais leur demander d'être un peu patients, on va les prendre tout de suite, mais sur cette question du retour à la terre et de cette relation à l'Arménie, la mère patrie, donc les auditeurs le disent, je vais en Arménie, j'ai la révélation, etc. Il y a deux temps aussi dans la relation avec l'Arménie. Il y a la découverte de l'Arménie soviétique, qui est un premier contact avec les Arméniens sur le terrain, et on se dit, ben, eux sont arméniens, moi je ne le suis pas. Certains vont se sentir totalement décalés par rapport aux Arméniens d'Arménie soviétique et se sentir encore moins peut-être appartenir à une communauté. Et puis il y a aussi la guerre du Karabakh et le tremblement de terre. Et là, on a deux formes de réveil. Avec la guerre du Karabakh, on a un réveil identitaire dans la résistance, c'est l'identité du combattant, hein, du héros. On a les fils de Vartan qui reprennent le dessus d'un coup. Et puis au même moment, on a le tremblement de terre et là, on a l'identité de la victime qui revient, l'identité de la perte, de l'injustice. Et c'est justement le tremblement de terre qui a suscité, j'ai envie de dire, les vocations entre guillemets et qui a marqué le plus grand réveil de la diaspora, puisqu'il y a eu alors à ce moment-là une éclosion des actions, des structures, des associations. En revanche, sur le terrain du combat, bon, il y a eu un peu moins d'engouement parce que tout le monde ne pouvait pas aller prendre les armes et se battre au Karabakh. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est à travers encore une perte, une catastrophe, un deuil national, collectif, que les Arméniens se sont sentis appartenir à la nation arménienne. Alors, sur ce retour du deuil qui forge encore l'identité arménienne, qui voudrait réagir ? Jaline Altounian, vous voulez commenter cet aspect ?
Ben, je suis
c'est plus facile d'être dans
je
la...
Je suis un peu gênée parce que quand on parle du deuil ou de la plainte, on pense qu'on pourrait l'éviter. Il faut partir de l'endroit où l'on se trouve. Il est certain que, et si on est dans la déploration au départ, parce que c'est ce qui vous a été transmis, on ne peut pas mettre ça de côté. Donc je suis toujours un peu gênée quand on m'interroge là-dessus, parce que moi je trouve que déplorer ou pleurer, c'est une forme de vitalité. Mais il est certain que, par exemple, la publication de mon premier livre a été déclenchée chez moi, alors que j'avais déjà écrit un certain nombre d'articles qui se trouvent dans ce livre, mais ça a été déclenché au moment où il y a eu le tremblement de terre. Et il y a, je trouve, dans la déploration, il y a de l'amour. Quand j'ai vu effectivement ce qui se passait là-bas, c'est pas seulement la plainte, c'est l'amour de ceux qui nous ont portés, de ceux qui nous ont mis au monde, malgré leur souffrance. Or, il y a dans ce ressenti de l'amour un élément tout à fait promouvant. Je voulais, si vous me le permettez, revenir un petit peu sur deux points de tout à l'heure.
Alors, si vous voulez bien, on va juste prendre un auditeur qui patiente et on poursuit la discussion. Allô, c'est à vous.
C'est
merci.
À moi,
oui, merci d'avoir patienté.
Oui, bonjour. Bonjour. Édouard Vartanien, à l'appareil.
Oui, alors même question qu'aux auditeurs précédents. De quelle génération êtes-vous ?
Est-ce
que
première génération née en France.
D'accord.
Donc, 73 ans bientôt. Je salue tous les auditeurs et puis je vous salue vous également qui êtes à la radio.
Donc bienvenue à l'antenne, on vous écoute.
Voilà, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas attendre d'aller en Arménie ou de faire une semaine d'archéologie quelque part pour se sentir arménien. Allez tous, une fois par mois ou deux fois par an, ou une fois par an simplement, dans une école arménienne. Il y en a à Marseille avec plus de 300 élèves. Il y en a à Nice, il y en a à Lyon, il y en a à Alfortville, il y en a ici les Moulineaux, il y en a
au Rassy.
Voilà, dont je m'occupe, avec, enfin, dont mon épouse s'occupe avec, et moi je l'aide.
Et Tobler-Sassel, oui.
Là, donc, vous trouverez dans ces écoles un nid d'Arménie. On parle arménien dans la cour, on parle arménien dans les classes, il y a des images arméniennes sur tous les murs, il y a des expositions qui se font où personne ne vient, où peu de gens viennent, hein, que ce soit sur les anciennes villes d'Arménie, que ce soit sur la résistance arménienne en France, que ce sont des endroits qui coûtent pas cher, parce que ça ne vous oblige pas à prendre un billet d'avion pour y aller, hein, c'est près de chez vous, que vous habitiez dans toutes les villes que je viens de citer, allez-y, les écoles sont ouvertes. En plus, si vous allez dans ces écoles, vous allez y trouver une chaleur, vous allez y trouver 200 ou 300 têtes qui vont vous rappeler un peu vos origines,
parce qu'elles
sont toutes adorables, mignonnes. Hein, on retrouve la même chose, bien sûr, en Arménie, puisque j'ai fait de nombreux voyages en Arménie, hein, mais là, vous êtes dans un bain extraordinaire.
Oui.
Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, si en partant, vous pouvez ouvrir un petit peu votre portefeuille, ça sera encore mieux.
Ah oui,
mieux.
Ça, c'est certain. Bon, merci, on a bien compris le sens de votre appel.
Excusez-moi, je termine. Si vous voulez faire de l'archéologie, Madame Papazian, je vous ai donné un DVD qui s'appelle « D'Arménie en Arménie ». Hein, il est toujours disponible à l'école Tobler-Sassel. Vous y verrez l'église d'Artamar, vous verrez Annie, vous verrez Garmisch-Vank, vous verrez plein de choses intéressantes. Et de votre fauteuil, vous allez voir tout ça.
Merci.
Il est disponible. Je fais un peu de publicité, mais c'est pas pour moi, c'est pour les...
On a bien compris. Merci.
100% pour l'école arménienne. Hein, ça coûte 20
Merci.
Euros.
Merci. On a bien compris. Je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que les interventions ce matin sont surtout consacrées à ce qu'est pour vous votre arménité et votre sentiment d'identité arménienne. Donc effectivement, dans les écoles, cette identité arménienne vit. Alors allez leur rendre visite et voir ce qui se passe sur le terrain. Un autre auditeur tout de suite. Bonjour. Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est à vous.
Oui, Béatrice d'Alfortville.
Oui, alors vous-même, quelle génération vous appartenez à quelle génération? Vous êtes née en France?
Deuxième.
D'accord.
Je suis née en France, de parents nés en Turquie, et rescapés du génocide. Je suis très impressionnée par le plateau d'aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu. Ce que je voudrais juste apporter comme témoignage, c'est que l'identité arménienne, bien sûr, je suis convaincue que chacun doit la vivre et la sentir, mais encore faut-il s'y sentir bien.
Oui.
C'est-à-dire vivre cette identité arménienne comme quelque chose de bon, d'agréable,
c'est
même s'il y avait souvent torturé.
Oui.
Et je crois que pour ça, Hasmik Kevonian en a parlé tout à l'heure, il y a deux moyens essentiels. D'abord, la connaissance de l'histoire et surtout de la culture, et on ne peut qu'être fier quand on a la connaissance de cette culture. Et puis la deuxième façon, c'est de s'engager. D'agir, de ne pas subir cette identité, mais de s'engager dans le domaine de son choix, mais en tout cas d'agir. Il n'y a que dans l'action qu'on peut bien vivre cette identité, pour justement la vivre de façon positive et non pas
constructive.
Simplement, voilà, constructive et non pas seulement dans la lamentation et la douleur. Voilà.
Merci, c'est très intéressant cette proposition effectivement de la vivre de façon bonne et agréable. Je crois que vous avez tous hoché la tête autour de cette table. Merci pour votre appel. Alors merci. Tout de suite, un autre auditeur. Oui, allô. Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est à vous.
Je m'appelle Michel Kevorkian. Donc
oui.
Pour répondre à votre question, j'ai 60 ans.
Donc,
je suis fièrement un Français d'origine arménienne.
Oui.
Mais très fièrement, et je l'annonce partout haut et fort.
C'est-à-dire fièrement dans la revendication
de
votre origine, c'est ça
origine arménienne. Et je suis aussi fier d'être en France. Par exemple, j'ai aucune honte à défendre la France lors d'un match de football contre qui que ce soit, quoi.
Oui, c'est intéressant parce que là, vous apportez dans la discussion cette notion de double appartenance, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'identité arménienne en France, comment on vit la partie française. Donc là, vous dites, je suis fier des deux côtés, en fait.
Ah oui, fier des deux côtés. Et par exemple, dans le milieu où je travaille, j'annonce haut et fort la couleur, je fais de la publicité pour la cause arménienne, mais sans aucune honte. J'ai distribué des tracts dans mon entreprise, etc. Je fais connaître la musique arménienne. Je voyage beaucoup grâce à mon métier. Partout où je vais, je vais même vous dire, j'étais en Israël, j'ai travaillé 6 mois dans un bureau d'études à Tel Aviv, je mettais de la musique arménienne. Etc. Partout, chez les Égyptiens, chez les Algériens, partout j'ai fait ça. Et alors je ne me gêne pas du tout.
Mais il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire. Pourquoi avoir honte? Vous avez
aucune.
Déjà.
Mais
est-ce que justement par défaut vous avez déjà ressenti une certaine honte?
Non, aucune honte. Par exemple, j'ai vécu, moi je suis un enfant de Bagneux. Et bien sur le chemin de l'école, les petits Français nous traitaient d'Arméniens tête de chien. On répondait par des coups de poing, quoi. Voilà, c'était ça.
D'accord.
Et ça, c'est passé avec le temps.
Oui.
C'est bien vieux, ça fait plus de 50 ans.
Eh ben, merci.
Par contre, madame, j'aurais voulu poser une question.
Allez-y.
Alors, j'ai été surpris que lors du débat sur la loi anti-négationniste, l'un des plus farouches adversaires de cette loi, le dénommé Pierre Nora, allô ?
Oui, je vous écoute.
A dit, mais alors moi je l'ai ressenti comme ça, vraiment avec l'intention d'humilier les Arméniens, que leur identité ne reposait que sur le génocide. Et alors j'ai trouvé cela abject, et j'ai été surpris que nos intellectuels n'aient pas répliqué.
Oh si, il y a eu des répliques qui ont été proposées à Pierre Nora.
Non, personne n'a répliqué, parce que là, cet homme-là, il a oublié qu'on avait eu Moses Rolenati, il a oublié que Machto...
Non, mais on va pas... Alors attendez, je vous arrête tout de suite, on va pas revenir sur le débat du collectif pour l'histoire de Pierre Nora, mais si, il y a eu des réponses qui ont été apportées à Pierre Nora, sans doute pas assez nombreuses, pas assez satisfaisantes, on est bien d'accord, mais c'est très intéressant d'avoir rappelé cette phrase de Pierre Nora, parce que ça rejoint un petit peu les questions que je posais à nos invités tout à l'heure, et est-ce que l'identité arménienne ne repose que sur le génocide? Et c'est ce que nos invités se sont employés à nier, hein, à contredire. Donc
oui,
merci de l'avoir rappelé.
Le débat est d'ailleurs une excellente tenue.
Merci.
Vraiment, c'est très très bien, excellent. Hein.
Merci pour votre appel.
Voilà, j'ai essayé d'apporter mon petit témoignage.
Eh bien,
voilà,
c'était très
madame,
intéressant.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, on va prendre encore des appels d'auditeurs, mais je vais vous demander de ne plus appeler, puisque cette émission arrivant dans sa dernière partie, nous avons encore des questions à soulever avec nos invités. Alors, un dernier appel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est à vous, madame.
On parle d'identité arménienne, il faut bien savoir qu'elle est bien basée sur notre culture, notre alphabet.
Oui.
La langue sans alphabet, ce n'est plus la langue, évidemment. Et cet alphabet, tout le monde a conscience qu'il a deux phonétiques. Alors, quand on parle l'arménien, donc ici on utilise la phonétique occidentale, en Arménie on utilise, et en Iran, en Russie, la phonétique orientale. Alors ça fait problème pour l'unité. Il faut quand même qu'on se pose la question de... Maintenant, on habite plus entre notre petite montagne, chacun dans son petit clan, dans sa petite montagne, on n'a pas de contact. On vit maintenant à l'heure planétaire et mondiale. Est-ce qu'il faut rester dans cet cloisonnement ou bien non, quoi? Voilà, c'est une question adressée pour les enseignants, pour tous ceux qui s'interrogent, qui s'intéressent pour
question
les enfants.
Question ouverte, oui. Question lancée à ceux qui traitent effectivement de l'enseignement de la langue arménienne.
Sachant que notre phonétique ici a une sonorité, il est plus faible en sonorité.
Écoutez, la question est posée. Merci pour votre appel.
Je vous remercie.
Au revoir. Un dernier appel d'auditeur, le tout dernier. Donc, c'est à vous.
Oui.
Oui, c'est à vous, monsieur.
Oui, bonsoir. Voilà, j'ai suivi le débat. Donc, moi, je m'appelle Franck de Védjean. Je suis de la quatrième génération. Non, pas le fils de Patrick. Je suis la quatrième génération.
Oui.
Et donc, c'était très intéressant ce que vous disiez. Simplement, moi, je pensais il y avait quelque chose d'autre et quelqu'un l'a évoqué. C'est-à-dire il y a encore une autre appartenance, je crois. On est arménien, effectivement, on est français, mais je crois qu'il y a un cheminement à faire, et ça, c'est vraiment le challenge, je pense, des années à venir. C'est que, et c'est, je vais peut-être choquer aussi en disant ça, mais on est aussi, et il faut l'admettre, quelque part, on est aussi turc, et il faut apprendre à, pas turc en tant que tel, mais je veux dire, on habitait en Turquie.
Ottoman.
Et, voilà, ottoman, hein, dans l'Empire ottoman, bon, bien sûr. Mais je veux dire, il faut, je pense, pour avancer, il faut que, et ça, vous voyez, c'est un jeune qui vous le dit, donc, moi, je suis persuadé qu'il faut commencer à apprendre la culture turque, l'histoire turque. Quel est le nombre d'Arméniens qui a lu une biographie de Kemal Atatürk? Ça, j'aimerais savoir. Donc, moi, je pense que les Arméniens feront beaucoup de progrès en essayant d'apprendre quelle était l'histoire, la politique, et aussi, malheureusement, maintenant, il faut s'intéresser à l'archéologie turque, à l'histoire.
Ce que disait l'auditrice tout à l'heure, oui.
Voilà, hein, voilà.
Mais écoutez, c'est intéressant. Voilà. Merci d'avoir apporté votre contribution à cette discussion, et ça rejoint en plus un petit peu ce que disait tout à l'heure Zovinar Kevonian, donc on va revenir en plateau. Merci à tous nos auditeurs d'avoir participé à cette émission ce matin et d'avoir apporté leur témoignage. Alors, ce dernier auditeur qui dit on oublie la troisième composante de notre identité, on est pas turc, mais ottoman. Et effectivement, cet héritage de l'Empire ottoman, l'exposition qui est en ce moment sur la péniche Anako, qui s'intitule « Mon cher frère », hein, on en a parlé sur cette antenne, parle de ça. Hein. On est tous issus de ce même empire, et donc les Turcs d'aujourd'hui et les Arméniens d'aujourd'hui ont un passé commun qui forge aussi une identité qui est la nôtre. Alors, sur cette nécessité d'aller vers le partenaire, l'interlocuteur premier, direct, le Turc, comme nouvelle approche de la construction identitaire, vous aviez lancé la discussion de Zovinar Kevonian. Janine Altounian, vous vouliez réagir, donc on va rentrer dans la fin de cette émission, mais sur ce sujet, je veux vous entendre aussi, parce que vous avez réagi tout à l'heure.
Bon, d'abord, je voudrais revenir sur deux choses qu'a dit Zovinar, qui sont en lien pour moi. Elle disait qu'il était évidemment important de connaître l'arménien, ou de le pratiquer, parce que ça mettait en rapport avec une partie de nous, une partie psychique, c'est évident. Et j'en ai eu la preuve lorsque j'ai participé au cours de Krikor Belodian, qui traduisait la retraite de Shahan Shahrnour. J'étais, en tant que traductrice, pleine de plaisir, parce que je voyais combien l'arménien ne pouvait pas passer en français, tellement cette langue était extraordinaire et pleine d'humour. Bon, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'à partir de cette émotion, de cette partie de soi qui s'éveille à la langue, on puisse se situer dans le monde en tant qu'Arménien. Or, pour se situer dans le monde en tant qu'Arménien, il faut, c'est toujours ma théorie que je développe, il faut dialoguer avec le tiers. Et je pense que la position de la Turquie est en rapport, évidemment, avec le tiers. Je pense qu'il faut passer par l'autre pour pouvoir faire bouger les choses, et que notre partenaire, qui n'en est pas un pour l'instant pour moi, je le maintiens, et je vais donner un exemple personnel à ce propos, ne peut bouger que s'il voit comment il se situe lui-même vis-à-vis des tiers et dans le monde. Alors, voilà, il se trouve que j'ai publié récemment un texte, un livre qui porte, qui est une étude qui reprend le texte de déportation de mon père. Mes parents étaient turcophones, et donc c'est un manuscrit en langue turque et en écriture arménienne. Comme dans cet ouvrage collectif, Krikor Belodian a joué un rôle très important, d'abord en tant que traducteur de ce texte et ensuite en fournissant dans ce livre un article très important sur ce genre de témoignage, il m'a suggéré un jour de publier ce livre en turc. Puisque finalement, c'est en langue turque, donc comme sujet ottoman, que le père avait écrit. Et j'ai demandé à mon éditeur de faire les démarches pour cette publication. Eh bien, il se trouve que la première maison d'édition a loué l'ouvrage, mais en disant que pour l'instant, la Turquie, enfin, qu'il n'y avait pas d'électeur pour cet ouvrage. Et nous sommes en train de chercher un second éditeur. Et c'est pourquoi jusqu'à maintenant, je n'y ai pas été. c'est ma position. Si je ne suis pas acceptée avec mon histoire, ben je suis très bien en France.
Ce sera votre mot de la fin.
Absolument.
Merci, Jeanne Altounian. Zovina Kevonian, donc, en conclusion, sur cette identité arménienne, on a évidemment fait qu'effleurer, hein, ce sujet, puisqu'on l'a dit en préambule, multiple, pluriel, et les auditeurs ont chacun apporté leur pierre à cet édifice, et chacun vit son arménité à partir d'un fait, d'un élément, d'une rencontre, d'un vécu quotidien ou pas. Est-ce que la langue est importante? Bon. On retiendra dans ce que vous avez dit cette nécessité d'aller vers l'avant et d'avoir une identité qui se construit et non pas figée, ce qu'on avait un peu l'impression qui était le lot commun d'être un peu retenu par le génocide. Donc non, vous dites non, il y a moi, cette identité arménienne, elle se construit, elle bouge.
Ben, elle évolue avec le temps. Donc effectivement, il y a eu une construction à une certaine époque, construction contre laquelle une génération d'ailleurs s'est élevée parce que le poids de cette construction lui pesait trop. Elle a été construite pour certaines raisons qui étaient d'ailleurs très légitimes, hein, par ceux d'avant qui avaient des raisons d'avoir construit cette question-là, qui était déjà la négation absolue et l'échec politique dans lequel étaient les Arméniens. Voilà. Après une seconde guerre mondiale où on avait vu Nuremberg quand même, où on pouvait juger les coupables. Et donc il y avait une distorsion complète entre la situation des Arméniens et les règlements de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour les Arméniens, c'était quelque chose d'extrêmement choquant. Donc tout ça s'explique aisément. Maintenant, je dis que cette identité, elle bouge naturelle, elle bouge par les individus, mais elle bouge aussi par les injonctions ou par les discours ou par les activités des structures existantes qui elles-mêmes contribuent à forger les choses. Et puis il y a une actualité. L'Arménie indépendante, c'est une nouvelle réalité des 20 dernières années qui bouscule, qui a changé la donne, effectivement. Et puis le dernier élément, c'est la mobilité actuelle ou ce qui se passe en Turquie même. C'est-à-dire que l'identité turque aujourd'hui est en grand débat. Ça, on ne sait pas dans quel sens ça ira, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en Turquie aujourd'hui, il y a des débats, voire des oppositions, voire même des conflits extrêmement forts sur qui sommes-nous. Est-ce que nous ne sommes que, alors, des nationalistes turcs, définition kémalisme, république de 1922, ou est-ce qu'on vient d'ailleurs? Et la résurgence du passé ottoman, c'est-à-dire la résurgence du « nous-mêmes, on a su vivre avec d'autres », voilà. Et à quelles conditions pouvions-nous vivre avec d'autres? Ça veut dire, par rapport au débat actuel sur l'Europe, est-ce qu'on est capable de vivre avec d'autres? Donc c'est le présent qui pose les questions sur le passé. D'accord? Donc si aujourd'hui à Paris il y a une exposition qui a été créée par un Turc de Turquie, qui a été montrée en 2005 en Turquie, d'accord, et celui qui a fait cette exposition intervient lors de l'inauguration en parlant en turc, puisqu'il ne parle pas français, pour dire « voilà, moi ce que j'ai vu c'est que dans ma ville, dans les livres d'histoire et de géographie, on ne parlait pas de gens qui pourtant avaient existé, et que les photographies, les cartes postales du début du siècle montraient que ces gens-là avaient existé, eh bien moi ce que je voulais montrer, au-delà du discours politique, tout simplement, c'est que cet espace était un espace partagé. » Peut-être pas harmonieusement, parce qu'on va dire que l'Empire ottoman, c'était la joie. Mais c'était un espace partagé. Donc cet espace partagé existait, donc il y avait d'autres gens. Oui. Donc il y a aussi, dans le débat sur l'identité turque, quelque chose qui, par ricochet,
va faire évoluer
va aussi arménienne. Faire bouger la question de l'identité arménienne. D'accord. Par contre, ce qui reste, sur lequel moi j'affirme les choses haut et fort, c'est qu'il n'y a pas de discussion sur les questions de justice. C'est-à-dire que le volet politique ne change pas, c'est pas parce que les gens changent ou bougent qu'on fait l'impasse, et en tous les cas il est hors de question, en tous les cas c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est que justice d'abord, et on discute après. C'est ce que disait Janine en disant, voilà, on m'accepte tel que je suis, sinon j'y vais pas. Et ça là-dessus, moi je suis absolument d'accord avec elle.
Alors, Erol Alexanian, le point de départ de cette émission, c'est une conférence que vous avez donnée à Yerevan sur l'identité arménienne. Donc, le mot de la fin, est-ce qu'on peut conclure? On peut difficilement conclure.
Non, quelques points quand même. Ouais. Je voudrais reprendre une plaisanterie de, parce que heureusement, une des composantes de l'identité arménienne,
c'est l'humour.
L'humour, et il nous est nécessaire parce qu'on en a bien besoin. Et je disais finalement, l'Arménie, c'est un Arménien d'Arménie, c'est une communauté de transit. En expliquant les mouvements de va-et-vient, surtout alors, sur s'attacher à parler, alors, l'Arménie orientale, occidentale, phonétique, machin, pour répondre à l'auditrice. Eh ben, depuis toutes ces années que je vais en Arménie, ben, mon arménien s'est transformé. C'est moitié arménien occidental, moitié oriental. Donc, ça évolue. J'en ai pas de fierté, ça m'est tombé dessus. Donc, il y a ça, il y a le rejet qu'on pratique, nous, à l'intérieur des communautés, vis-à-vis des Arméniens de Turquie, qui viennent de Turquie, les différents groupes se rejettent. Ça, ce serait tolérance. Et puis, pour apprendre la culture turque, oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, qu'on demande aux partenaires de déposer leurs flingues au vestiaire, quoi. Moi, ouais, ça me ferait du bien.
Bon. Merci, Erol Alexanian. Jeanne Altounian, merci. Je rappelle que votre dernier livre, Mémoire du génocide arménien, héritage traumatique et travail analytique, est toujours disponible en librairie, ainsi que les précédents, qui sont effectivement très, très éclairants, hein, sur ce travail de recherche identitaire. Devine Alkevonian, l'exposition dont vous reparliez à l'instant, on n'en a pas redonné le titre, c'est Mon cher frère, c'est à la Péniche Anaco, et courez vite la voir, car elle se termine le 2 mars ou le 3 mars, enfin là. Alors allez-y rapidement. Péniche Anaco, c'est à Paris. Merci pour votre contribution à cette discussion qui a sans doute donné envie aux auditeurs de participer, mais aussi qui les a amenés à se poser des questions. Bah, qu'est-ce que je suis, tiens, moi? Est-ce que je suis arménien de France? Est-ce que je suis français d'origine arménienne? Autant de questions qui, je l'espère, donneront l'occasion de nous réunir de nouveau autour de cette table et puis d'échanger de nouveau sur cette question, sur cette identité qui bouge, qui se construit. Et je retiendrai le conseil d'une auditrice qui nous disait « Vivez-la bien et de façon agréable, ouais. Et dans l'action. » Et je pense que là, on a tout dit. Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci. Merci beaucoup.
Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.